Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur la première. Bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité, celui que nous vous fixons chaque samedi. 30 minutes pour débattre ou s'informer des petits et des grands événements qui font vibrer le monde et notre société. Mais le faire sous un regard laïque, curieux de tout et respectueux des différences. Jacques Nizin à la technique, Catherine Axe au micro. Respectueux des différences, vous disais-je à l'instant, comme celles qui font cohabiter les hommes aux côtés des femmes et non contre elles ou tout contre, comme disait Sacha Guitry. Ce soir, nous serons exclusivement en mode féminin. Et oui, j'ai le plaisir de recevoir trois femmes pour débattre d'une thématique qui nous intéresse, qui nous tient à cœur, l'émancipation des jeunes filles par l'éducation. Alors autour de cette table, trois femmes donc qui ont la chance, et ce n'est pas toujours le cas, d'être émancipées et éduquées. Isabelle Simonis, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes ministre, on vous présente plus, francophone de la promotion sociale, de la jeunesse, des droits des femmes et de l'égalité des chances. Sylvie Losberg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de mission à la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque. Et Julie Pernet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes-vous chargée de mission à la cellule Europe et internationale du Centre d'action laïque. Eh bien, permettez-moi cette familiarité, laissez-moi vous dire salut les filles. Voilà, on va parler de filles. Et oui, ce soir, rappelons-nous, dans la Constitution belge de 1831, l'une des plus libérales pour l'époque, tous les Belges sont égaux devant la loi, sauf les femmes. Ni électrices, ni éligibles, elles sont exclues de toute action publique ou pensée politique. Et si elles sont mariées, elles sont même entièrement soumises au père de famille. Bon, après plus de 100 ans de combat, notre pays peut servir d'exemple à bien d'autres dans le monde. Et pourtant, en 2014, on chiffrait encore 23% d'écart salarial, 80% des tâches ménagères exécutées par les femmes, 95% des violences subies par elles. Et dans le même temps, des inégalités liées au sexe persistent à l'école. Alors Isabelle Simonis, vous êtes l'instigatrice d'une note égalité hommes-femmes 2014-2019, adoptée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui poursuit un objectif clair, atteindre l'égalité réelle entre hommes et femmes. La femme, Isabelle Simonis, est-elle vraiment l'avenir de l'homme ?
Je n'aime pas quand on dit la femme, j'aime bien les femmes, parce qu'il y a des tas de femmes qui vivent d'ailleurs des vies et des difficultés différentes. Maintenant, l'avenir de la société, je crois sans doute, avec les hommes, dans une relation égalitaire qu'il faut sans cesse repenser, redéfinir, et il faut sans cesse combattre pour l'obtenir, puisque vous avez rappelé que la Constitution, la nôtre aujourd'hui, et toutes nos législations sont sans doute les plus progressistes, je dirais, mais que dans les faits, cette égalité n'existe pas. Et donc c'est le sens de ce plan égalité qui vise à ce qu'on reconnaisse que c'est bien, que l'égalité entre hommes et femmes est bien une matière transversale, et que donc tous les départements, à ce stade de la communauté française, mais demain de tous les niveaux de pouvoir, devraient pouvoir prendre un certain nombre de mesures pour réduire ces discriminations.
Alors on parle d'émancipation bien sûr, mais le problème chez nous, on peut dire qu'elles sont majoritairement émancipées, c'est plutôt l'orientation, c'est peut-être aussi le fameux plafond de verre, qu'en pensez-vous ?
Bien sûr, puisque à la fois elles sont plus formées que les garçons, elles réussissent mieux, et qu'à côté de ça, il y a toute une série de discriminations dans le monde du travail qui font que d'abord elles n'ont pas le même salaire, vous l'avez dit, mais quand elles ont un emploi, elles ne progressent pas de la même manière dans l'entreprise, parce que aussi au niveau personnel, dans la vie privée, les tâches sont souvent très très mal réparties, à la fois l'éducation des enfants, mais aussi simplement les tâches ménagères, ce qui fait que, eh bien, généralement les promotions passent à côté, et le calcul de la carrière est aussi très très discriminant pour les femmes, puisqu'elles ont souvent des interruptions de carrière, ou que, et en plus en période de crise économique, ça devient vite une solution, ou qu'on les incite à prendre des temps partiels. Et donc ainsi, elles ne progressent pas de la même manière, et en plus, elles n'ont pas la même pension non plus.
Si on élargit un peu le débat, un rapport a été présenté au Parlement européen la semaine dernière, le 9 septembre, sur l'émancipation des jeunes filles par l'éducation dans l'Union européenne. Il contient au total 25 constats, 24 recommandations générales, 32 spécifiques. On ne va pas faire le tour de tout ça aujourd'hui, mais plutôt voir pourquoi et comment ce rapport est né. Je vous propose d'entendre l'eurodéputée portugaise Liliane Rodrigues. À notre micro, nous sommes allés à sa rencontre. C'est elle qui a proposé ce rapport sur l'émancipation des jeunes filles. On l'écoute, on se retrouve juste après.
Je pense que nous donnons un signe très positif à l'Europe. Nous donnons une série de recommandations. Les États membres ne sont pas obligés d'accomplir tout ce qu'il y a dans ce rapport. Mais nous disons quelque chose de vraiment important ici pour moi. Nous parlons de cursus scolaire, de programme scolaire, pas dans l'idée d'un niveau précis, mais d'un cursus comme forme de pouvoir. L'éducation est un pouvoir. C'est important de former des enseignants pour combattre les stéréotypes et créer des groupes de réflexion avec les étudiants, bien sûr, pour mieux comprendre ce que nous sommes, ce que nous transmettons à nos étudiants, nos valeurs, sans dire ce qui est bon ou mauvais. Mais nous devons déconstruire les discours et changer nos pratiques. Le plus important ici, c'est que les gens comprennent que quand nous parlons d'égalité entre les genres, nous ne parlons pas spécifiquement des hommes et des femmes, mais nous parlons de tous les genres qui existent dans notre monde. Et ce que nous essayons de dire, c'est de respecter tout le monde. Nous avons beaucoup de problèmes en Europe avec l'homophobie, par exemple, et nous devons la combattre. Le plus important pour les êtres humains est d'être heureux. Nous espérons vraiment que ce rapport aide les gens à être plus heureux en Europe.
Isabelle Simonis, une réaction. Est-ce que c'est important, ce rapport-là, utile ?
Oui, c'est utile, puisque enfin, l'éducation, c'est un droit fondamental. Et il faut peut-être souligner aussi qu'en enfin, Europe, dans nos pays, les petites filles ont accès à l'éducation. On verra après, parfois, que l'éducation est très reproducteur d'inégalités. Mais qu'à côté de ça, il y a encore 30 millions de petites filles au travers le monde qui n'ont même pas accès à l'école primaire. Et donc, de mettre un focus sur la question de l'éducation et de l'accès à une éducation qui doit être dénuée de stéréotypes, ça me paraît effectivement très très important.
Julie Pernet, on va voir avec vous. Vous êtes chargée de mission à la cellule Europe et internationale, au Centre d'Action Laïque. Vous avez travaillé sur ce rapport. Comment a-t-il été accueilli ?
Alors, peut-être quelques mots sur le rapport un peu plus précis. Le rapport, en fait, vise à faire de l'école un outil de correction des stéréotypes de genre, mais aussi liés à l'orientation sexuelle, donc, comme le disait Madame Rodriguez. Et donc, l'idée, c'est que par des programmes scolaires donc, promouvant cette égalité de genre, par une formation des enseignants, mais aussi par une éducation à la sexualité pour tous les enfants. Mais c'est vraiment de donner tous les outils aux jeunes filles pour qu'elles puissent se développer personnellement et professionnellement. Et donc nous, les laïcs, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pour essayer de faire adopter le rapport par les députés européens. Et c'est vrai que c'est un rapport qui a suscité une mobilisation assez importante, mais surtout très agressive, d'organisations anti-choix. Je pense particulièrement à la Manif pour tous, qui a lancé une pétition contre le rapport, qui a rassemblé à peu près 160 000 signatures quand même. Donc voilà,
qui a vraiment... Éduquer les filles, ça fait peur.
Oui, voilà, c'était vraiment une campagne mensongère, comme d'habitude, je dirais. Et donc je trouve ça vraiment... surtout très hypocrite en fait que cette opposition soit portée par des femmes, parce que quand même quand on entend des députées européennes au Parlement européen s'élever contre le fait que les jeunes filles puissent avoir une éducation de qualité, quand on entend aussi la présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère, s'opposer effectivement à ça également, c'est quand même hallucinant, puisque ce sont des femmes qui ont elles-mêmes bénéficié d'une éducation, elles-mêmes aussi bénéficient à un moment de leur vie de l'émancipation nécessaire pour s'engager en politique. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment hallucinant en fait de voir ces femmes prôner vraiment une vision très conservatrice et traditionnaliste de la société. Mais bon, heureusement, la mobilisation n'a pas échoué, donc le rapport a été adopté, ce qui est très bien.
Ce rapport de Liliane Rodriguez a fait aussi référence à l'égalité homme-femme via une éducation globale sur la sexualité et les relations. Justement, Sylvie Losberg, c'est un peu votre dada. Hein. Au Centre d'Action Laïque, vous travaillez beaucoup sur l'EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors, tout d'abord, dites-nous, qu'est-ce que c'est exactement l'EVRAS ?
Alors, en Belgique, l'EVRAS prend la forme d'animation qui sont proposées aux enseignants ou aux pouvoirs organisateurs des écoles. Animations qui sont majoritairement le fait d'animateurs de centres de planning. Hein. Et c'est à la demande, en réalité, que ces animations ont lieu. il n'y a pas en Belgique d'éducation sexuelle obligatoire à l'école. Et donc ça, c'est vraiment une des revendications du Centre d'Action Laïque, c'est que pour que tous les élèves aient accès à une information de qualité de manière égalitaire, justement, il faudrait le rendre obligatoire. Le problème, c'est que il y a des problèmes structurels, certainement, mais il y a surtout des freins idéologiques. Et là, je crois que on rejoint le débat que vous venez d'évoquer, c'est que l'égalité, bah, tout le monde est plus ou moins pour l'égalité, mais quand il s'agit de parler de liberté de choix, d'une sexualité responsable, d'un épanouissement par la sexualité, alors là, on voit bien qu'il y a encore vraiment des opposants à cette liberté, et particulièrement la liberté pour les femmes.
Oui, et parler librement de sexualité aux enfants et aux jeunes, ça reste quand même encore problématique chez nous.
Oui, et d'ailleurs, il y a une évolution qui est assez alarmante, parce que dans les années 70, 80, même 90, il y avait des animations qui se faisaient dans des classes mixtes et ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, on en revient à devoir faire des animations dans des classes non mixtes, parce que les stéréotypes dont on a parlé tout à l'heure, ils sont au fond les vecteurs de la violence. Assigner l'autre à une place, le fixer dans un rôle, c'est une manière aussi de créer une distance et de pouvoir l'attaquer. Et on voit que cette violence, dont vous avez parlé aussi envers les femmes en Belgique, c'est une catastrophe, hein, il faut quand même le reconnaître, cette violence, elle commence là. Elle commence dans la non-acceptation de l'autre comme un sujet à part entière. Et donc l'Evras est vraiment indispensable. C'est une mesure de santé publique, je dirais même.
On pensait avoir fait de grands pas et en fait, par une certaine manière, on revient en arrière souvent.
Oui, mais comme Madame la ministre le disait tout à l'heure, le fait, enfin, il y a aussi une violence institutionnelle. Le fait que les femmes et les filles soient moins bien payées, ben, ça les infériorise. Le fait que dans les classes, elles sont mieux formées, et elles ont des meilleurs diplômes, mais qu'en réalité, ben, elles sont discriminées sur le plan de l'emploi, ben, ça montre bien qu'au fond, dès le début, on a un problème avec cette, entre guillemets, différence des sexes. Ça reste quelque chose de tabou dans un monde où les mesures, notamment d'austérité, bah, c'est les femmes les premières frappées par ces mesures. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir, pas seulement sur la question de l'éducation, mais je pense que ça commence par l'éducation. Et puis après, bah, il faut sans doute s'attaquer à tous ces freins. Oui.
Isabelle Simonis, vous avez, je pense, soutenu l'Evras.
Oui, mais je continue d'ailleurs de le faire et je partage deux choses dans ce qui vient d'être dit. À la fois à un cours de relations sexuelles et affectives devrait pouvoir se développer partout et pour tous les enfants. Et aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas. Les évaluations, en tout cas, nous montrent que ce n'est pas le cas. Donc, à titre personnel, je crois que le mieux serait qu'on aborde cette question dans le cadre du futur cours de citoyenneté dont on parle beaucoup et qui va sans doute arriver dans les prochaines semaines, mais de pouvoir avoir un volet qui concerne effectivement cette éducation, puisque on commence dès le départ à pouvoir sensibiliser aux questions d'égalité. Et puis par ailleurs, il y a une autre question, je trouve, qui est très très importante, c'est celle de la mixité, puisqu'on voit aujourd'hui, que ce soit à l'école, mais aussi en sport, dans les loisirs, que de plus en plus, il y a une tentation d'un retour vers des groupes non mixtes. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux et qu'il faut réaffirmer la mixité comme étant une condition de l'égalité. Et il y a vraiment un travail profond à faire. C'est peut-être lié à une... un développement plus important aujourd'hui des religions, et je mets S, mais qui fait qu'on a tendance dans différents lieux, hein, dans les structures de jeunesse, dans des clubs de sport, dans, enfin que sais-je, à revenir à des groupes, et souvent d'ailleurs strictement masculins, plus que strictement féminins. Et donc je trouve que... Donc j'organiserai au printemps prochain un colloque, un séminaire sur ces questions, parce que ça me paraît être important et que ça, c'est transversal aussi à toute une série de politiques qu'on peut développer.
On fait une petite parenthèse musicale, le temps d'emmagasiner, tout ce qui vient d'être dit, et en se trémoussant, en prenant un peu de plaisir, figurez-vous, avec Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Voilà, Cyndi Lauper, Girls Want Just to Have Fun. Bah oui, voilà, on parlait justement de cela avec nos invités ce soir dans Libre Ensemble pour débattre de l'émancipation des jeunes filles à l'école. En studio avec nous trois femmes, Madame la ministre Isabelle Simonis, Sylvie Lauzberg de la cellule études et stratégies du Centre d'Action Laïque et Julie Pernet de la cellule Europe et internationale du même centre. Alors, Sylvie Lauzberg, au-delà d'une nécessité d'émancipation, est-ce que la place sociale des femmes et des filles n'est pas liée à leur rôle de mère? Il y a une révolution d'émancipation et puis là on opère un petit retour en arrière parce que la femme est mère avant tout.
Oui, il semble quand même qu'on est aujourd'hui, avec les problèmes économiques que l'on rencontre, dans une nouvelle ère qui renvoie la femme à la maison ou qui renverrait les femmes à la maison. Bon, d'une part parce que il y a des problèmes de place de crèche, il y a des problèmes financiers, il y a le fait que quand les femmes travaillent, elles gagnent moins, donc c'est souvent elles qui arrêtent de travailler, que ce soit de manière temporaire ou définitive. Donc tous ces indicateurs sont à l'orange, je dirais, parce que on a encore une société qui malgré tout valorise les femmes dans leur action sociale, politique et autres. On n'entend pas quelqu'un qui viendrait de manière, je dirais, ostensible, dénier aux femmes une place dans l'espace public. Ça se vit, mais ça ne se dit pas. Et je voudrais prendre un seul exemple, qui est celui des jeunes filles enceintes. En Belgique, on nous dit souvent, enfin je l'entends dans les cercles, que bon, il n'y a pas plus de jeunes filles enceintes chez nous qu'ailleurs. C'est faux. Les derniers rapports démontrent que dans les écoles, il y a de plus en plus de jeunes filles qui suivent un cursus scolaire et qui sont en même temps enceintes, qui donc donnent naissance à un enfant. Et au lieu que ce phénomène nous inquiète, il y a plutôt une valorisation sociale de ces jeunes filles qui deviennent mères très jeunes et qui donc se privent évidemment d'une éducation et de moyens financiers ou autres après pour pouvoir rebondir au cas où elles se retrouvent seules et qu'elles doivent
la gérer. Elles sont censées gérer leur corps et donc si elles ont décidé, ben voilà, c'est bien.
Il y a dans les écoles vraiment un accueil très très chaleureux de ce type de parcours et moi je trouve ça inquiétant parce que justement ça veut dire que ces jeunes filles iront peut-être jusqu'à 18 ans à l'école et puis plus. Ça veut dire aussi qu'elles n'auront peut-être pas les moyens de se développer comme un acteur social. Parce que bon, quand on a un enfant et qu'on a 16 ans, on est occupé avec cet enfant. Et là, je trouve qu'on a vraiment quelque chose peut-être à re-réfléchir.
À plus communiquer alors. Il aurait fallu plus les éduquer.
Mais c'est-à-dire que si les femmes ne ressentent pas que la société les accueille dans des places politiques, sociales, économiques,
autre
valorisantes,
qu'en étant mère.
Le fait d'être mère, ça leur donne un rôle social. Et c'est là, je crois, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer chez nous. Et je crois que c'est vraiment un dossier qu'il faut prendre à bras le corps maintenant. Oui.
Donc il y a une éducation aux jeunes filles à plusieurs vitesses, en fait.
Oui, et malheureusement, évidemment, on voit bien que c'est lié au milieu socio-économique. C'est très clair. Donc là aussi, pour revenir sur les vrasses, l'inégalité devant l'information est une inégalité qui redouble déjà les inégalités socio-économiques. Donc c'est un vrai problème.
En 1996, un texte avait surgi, rappelez-vous, qui deviendra un pilier du féminisme. C'est le texte d'Eva Ensler, les monologues du vagin, qu'on connaît bien aujourd'hui, traduit en 46 langues et interprété dans plus de 130 pays. Pourtant, le mot vagin fait encore un peu peur. Alors la route est longue, mais pas désespérée, Isabelle Simonis.
Non, pas du tout. Et donc, c'est un texte.
Ce mot-là fait encore peur, mais on est là pour dire que non.
Je me demandais quelle est la question. Mais voilà.
Avez-vous peur du mot vagin?
Non, pas du tout. Non, je n'ai ni peur du vagin, ni de la sexualité épanouie, d'ailleurs. Et le texte était effectivement très beau, mais je partage ce qui vient d'être dit. On sent que qu'il y a une évolution qui est palpable aujourd'hui. Partout et en ce compris à l'école, puisque l'école est le premier lieu d'éducation. Et lorsqu'on dit qu'il y a une reproduction de stéréotypes filles-garçons, il y a aussi, hélas, une reproduction. L'école n'est pas assez, qu'on voudrait, émancipatrice, ni en termes socio-économiques, puisqu'on voit que riches, enfin, les classes sociales se reproduisent, même après l'échec et le fait de classes sociales les plus défavorisées. Et les filles, là-dedans, peuvent très vite aussi basculer dans un rôle que toute la société leur renvoie. Les médias, les manuels scolaires même, dans certains cas, toute une série de loisirs, et donc qui fait que c'est plus simple. Quand on est une jeune fille, qu'on n'a pas trop envie de poursuivre des études et qu'on a un petit copain, voilà. Et qu'en plus, on n'a pas les infos en matière de contraception, qu'on n'a pas l'histoire culturelle du combat des femmes, je dirais que, voilà, donc on doit sans doute, comme politique, mais comme citoyenne aussi, redoubler d'attention pour discuter du féminisme. Comme le vagin, le féminisme n'est pas non plus une injure.
Non.
Et donc, je trouve qu'on devrait pouvoir y redonner ses lettres de noblesse.
Au même titre qu'à l'école, il y a émancipation, éducation, et en même temps, on remarque une hypersexualisation et sexualité qui offre aussi entre filles et garçons des clivages où les filles, ben finalement, sous couvert de je m'émancipe, je connais mon corps, je veux. Et en fait, non, on rentre dans des clivages et des rapports de force étonnants qu'on ne connaissait pas avant.
Oui, et donc à ce sujet, je pense que j'ai pour projet de travailler sur cette question de l'hypersexualisation des petites filles, et puis je crois qu'il faut aussi continuer à travailler à la sensibilisation des ados, sans doute dans les relations amoureuses qu'ils ont entre eux, et donc de pouvoir, au mois de novembre, puisque nous ferons une nouvelle campagne contre les violences, de pouvoir cibler cette communication plutôt vers les jeunes, de façon à pouvoir sensibiliser et faire en sorte qu'ils aient des relations respectueuses et consenties aussi de part et d'autre.
Vous parliez de jeunes. Isabelle Simonis, mais Julie Pernet est la plus jeune autour de cette table. J'aimerais bien lui laisser le mot de la fin. Elle était émancipée, bien sûr, mais qu'a-t-elle à dire de tout cela? Parce que voilà, finalement, c'est demain que tout va se faire aussi.
Alors, moi, je pense que c'est vraiment assez compliqué d'être une femme aujourd'hui. Je pense que les médias, la publicité, la société en général imposent énormément de choses aux femmes. Il faut être mère, il faut aussi réussir une carrière professionnelle brillante, tout en étant moins bien payée que ces messieurs. Il faut se taire aussi, parce que si on se plaint trop, alors on est taxé de féminisme hystérique.
Chienne de garde.
Voilà, donc je pense qu'au plus tôt, les jeunes filles prennent conscience de tout ça, au mieux elles seront armées pour faire leur propre choix, s'opposer à cette réalité si elles le souhaitent, évidemment. Et voilà, dans ce travail-là, l'école a tout à fait son rôle à jouer.
Voilà. Eh bien, Isabelle Simonis, Sylvie Losberg, Julie Pernet, bon, il y a encore pas mal de choses à dire, mais bon, voilà, pour aujourd'hui, merci à vous trois pour votre participation. Ah oui, pour info, Sylvie Losberg, vous signerez en novembre un article sur le sujet à lire dans le mensuel du Centre d'Action Laïque Espace de Liberté. Voilà, c'est ici que se referme ce numéro de Libre Ensemble. Merci à vous, auditeurs, auditrices, bien sûr, mettons ça au féminin, de nous avoir suivis. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. À très bientôt et belle soirée à tous. United Nations.